le début de la visite de la mission sénatoriale en Calédonie. François-Noël Buffet, Philippe Bas et Jean-Pierre Sueur ont rencontré ce matin le président du gouvernement et se sont rendus ensuite au Sénat coutumier. Le dossier SMTU au menu du Conseil municipal du Mont-d'Or hier soir. La commune va attaquer en justice les décisions du syndicat mixte des transports urbains qui a modifié les contributions financières des communes. La province sud maintient son soutien à l'ADI malgré un contexte budgétaire tendu. Elle renouvelle sa convention d'objectifs et de moyens avec l'association. Le sommet de Bruxelles entérine la demande d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie dans l'Union européenne. Décision prise à l'unanimité. En sport, les bateaux de la Groupama Rail continuent d'arriver. Hier soir, Aikandi a été le premier bateau calédonien à franchir la ligne. Nous irons à Saipan pour, on l'espère, de nouvelles médailles calédoniennes au mini-jeux. Et puis en natation, Maxime Grousset disputera cette nuit la finale du 50 mètres nage libre aux Mondiaux de Budapest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
On vous retrouve à la fin de cette édition pour le magazine Transparence avec votre invité.
Et c'est Sonia Baquès qui sera l'invité de ce magazine Transparence. Avec la présidente des Républicains calédoniens, nous parlerons notamment de la création de la Confédération loyaliste Ensemble. Les statuts viennent d'être déposés et elle en assure la coordination. Nous l'interrogerons également bien sûr sur les résultats des législatives en Nouvelle-Calédonie et à l'échelon national. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Sonia Baquès. Ce sera juste après votre journal, Jean-François.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, c'est à 16h45, le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Avec un sommaire très chargé, vous vous en doutez, nous parlerons des législatives en Nouvelle-Calédonie et en métropole avec au niveau national les conséquences politiques. Nous parlerons aussi de la création de la Confédération loyaliste Ensemble et puis nous dirons un mot de l'inauguration de la statue de la poignée de main qui est prévue dimanche pour évoquer surtout le sens de cette cérémonie et de cette poignée de main. On se retrouvera donc à 16h45 pour ce Club Politique qui, je le rappelle, sera rediffusé demain matin à partir de 11h.
La mission sénatoriale est donc arrivée hier soir sur le territoire et elle a commencé dès ce matin ses rencontres avec les responsables des institutions calédoniennes, Gilles Ménage.
Le sénateur François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, et les sénateurs Philippe Bas et Jean-Pierre Sueur, rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ont d'abord rencontré ce matin le président du gouvernement, Louis Mapou, avant de faire étape au Sénat coutumier, où ils ont longuement échangé avec les sénateurs. À l'issue de cette rencontre, nous avons pu demander au sénateur François-Noël Buffet ce qu'il attendait de la mission qu'il conduit aujourd'hui.
On espère qu'elle apportera beaucoup de choses. Naturellement, nous attendons en premier que le gouvernement propose, c'est à lui de le faire. Mais notre travail à nous, qui est un travail qui s'inscrit dans la réflexion, sans doute il y aura des propositions, mais plus dans la contribution. Donc nous sommes dans cette logique-là, même qui s'ouvre, en tous les cas notre présence ici, c'est une présence d'écoute, c'est une présence de compréhension, d'échange. C'est pas une présence pour décider des choses, c'est vraiment pour être entendre tout ce qui se dit, confronter les idées. Et nous ferons un rapport, bien évidemment, mais ce rapport sera au mois de septembre simplement. Et il servira de base à une contribution que nous ferons lorsque le gouvernement déposera un texte ou fera une proposition. Donc c'est toujours des moments très importants pour nous. Car ce sont des moments où on se donne le temps de la réflexion, c'est un peu une marque de fabrique du Sénat, et nous tenons à rester dans cette logique-là.
Le Sénat a toujours été extrêmement attentif à la situation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Quel rôle peut-il jouer en tant qu'institution dans le processus qui s'ouvre aujourd'hui ?
Vous savez que le jour où le gouvernement aura un texte, le Sénat sera saisi, et il devra contribuer. Donc son rôle, et son rôle de législateur habituel de surcroît, de façon très importante dans le cas précis, et nous apporterons avec beaucoup de soin tout le travail que nous aurons fait en essayant de jouer le rôle de facilitateur, en tous les cas pour un avenir qui soit positif pour tout le monde. Donc je reprends l'expression qui a été utilisée, qui est très importante: nous allons essayer de tisser les choses. Voilà, et nous tenons à ça.
Qu'est-ce que vous retenez de votre rencontre de ce matin avec les sénateurs?
Écoutez, c'est une rencontre d'abord très agréable d'une part, mais sur le fond très intéressante. Elle se continuera sans doute, d'une autre façon probablement, dans le travail qui est le nôtre. Mais il y a une chose qui est essentielle pour nous. On ne peut pas travailler sur ce sujet-là comme sur d'autres sans avoir d'abord un contact physique avec ceux qui font la vie du territoire. Et ça, c'est fondamental. Rien ne le remplacera jamais.
Après cette étape à Nouville, la mission sénatoriale s'est rendue au Haut-Commissariat où elle reçoit en ce moment même le président du Congrès, Roque Amitan. Cet après-midi, direction Ouvéa, où les sénateurs s'entretiendront avec le président de la province des Îles, Jacques Lallier, et avec le maire d'Ouvéa, Maurice Tilewa. Ils se rendront également à la fête du Lagon.
Et rappelons que les trois sénateurs poursuivent leur mission jusqu'au 29 juin en Calédonie. Ils se déplaceront dans les trois provinces et rencontreront de nombreuses personnalités et responsables politiques. Après Bouloupari, hier, le haut-commissaire poursuit, lui, ses visites de terrain. Il était à Calagomène ce matin où le maire lui a présenté plusieurs projets communaux. Actuellement, à Vaux, Patrice Force est rendu à la plage de Gatop où il a visité la base nautique. Il est actuellement sur le sentier d'accès au cœur de Vaux et terminera sa visite par l'école de Willis. Les recherches se poursuivent pour retrouver le fugitif de Saint-Louis. L'homme de 38 ans est suspecté d'avoir tué par balle son voisin, âgé de 61 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon le procureur de la République, l'auteur présumé aurait tenu des propos menaçants et insultants envers sa victime au cours de la nuit. Et c'est vers 4 heures du matin qu'il aurait tiré un coup de feu avec un fusil de chasse qui a blessé à l'abdomen le sexagénaire qui est décédé ensuite de ses blessures. Une autopsie a été ordonnée par le parquet. Unanimité hier soir au conseil municipal du Mont-d'Or pour s'opposer aux récentes décisions du SMTU d'augmenter la participation des communes pour équilibrer le budget. La municipalité a décidé d'attaquer en justice trois délibérations adoptées par le conseil syndicat du syndicat mixte des transports urbains. Écoutez Jean-Jacques Affchin, le premier adjoint au maire qui présidait hier soir le conseil municipal du Mont-d'Or.
Des délibérations concernant la participation de la commune sur au budget 2022, le budget par lui-même, le délai de vote du budget et un recours contre la délibération fixant la clé de répartition des communes. Donc c'est une délibération qui a été votée par tous les groupes politiques présents. Tous les groupes politiques se sont attachés à dire que vu les services proposés par le SMTU sur la commune, il était hors de question que la commune paye plus cher la participation au SMTU.
Il faut dire que les sommes sont conséquentes. La facture passe en effet de 42 à 154 millions pour 2022, explique Jean-Jacques Affchin.
Nous, au budget, il avait été convenu d'une augmentation de notre participation au CNTU sur plusieurs années. Donc, on devait passer cette année à 42 millions. On nous demande pour 2022 participation pour équilibrer le budget entre les quatre membres du CNTU de 110 millions, ce qui porterait notre participation à 154 millions. Donc, la commune n'a pas les moyens de financer cette somme. Ensuite, la clé de répartition, celle qu'ils nous ont proposée, elle est calculée sur le FIP. Alors que nous, nous proposons une clé de répartition plutôt calculée sur le kilomètre parcouru par le CNTU, le nombre d'arrêts, le nombre de passagers, sur les services rendus. Il serait plus équitable pour toutes les communes.
Le maire est donc autorisé à attaquer en justice les délibérations du SMTU avec le soutien de tous les groupes politiques représentés au Conseil. Le sujet doit par ailleurs être évoqué prochainement par le Conseil municipal de Dumbéa. Et j'ajoute qu'hier soir, le Conseil municipal du Mont-d'Or a également approuvé à l'unanimité les comptes administratifs 2021 de la commune. Les comptes de la commune de Païta sont aussi bien tenus. C'est le constat dressé hier soir par le trésorier de la province sud qui était reçu par le conseil municipal et qui a pu faire une synthèse pour les élus, nous a dit le maire de Païta, Willy Gatuo.
À retenir la présence du trésorier de la province sud qui est venu faire une synthèse de la qualité comptable des comptes de l'exercice 2021. Alors là, il ne s'agissait pas d'aborder les questions de gestion ou d'analyse financière. Il s'agit bien de la tenue des comptes. La commune de Païta a été notée à 18,6, qui place la commune de Païta première commune de la Nouvelle-Calédonie et au-dessus de la moyenne nationale notamment. Preuve de la qualité du travail des agents et principalement ceux des finances. Cette question-là engage également la question de la dématérialisation. Ça vaut pour un certain nombre de services à rendre aux administrés. Également la question de l'inventaire du patrimoine de la commune.
Le conseil municipal de Païta a également adopté les 13 délibérations qui étaient à l'ordre du jour, notamment une convention relative à l'attribution d'une subvention de l'État pour un programme de rattrapage des équipements structurants. 11h40, une première pause dans ce journal. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer tout le reste de l'actualité en Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du 17 au 25 juin, avec McDonald's Nouvelle-Calédonie, suivez, vivez, partagez les mini-jeux du Pacifique de Saipan sur Radio Rythme Bleu. Résultats, analyses, interviews, vous saurez tout et tout de suite. Les mini-jeux du Pacifique de Saipan sur RRB avec McDonald's Nouvelle-Calédonie, partenaire officiel des Cagous.
En 2022, reprenons notre envol. Les Cagous sont de retour sur les terrains de compétition. Du 17 au 25 juin, suivez les Cagous qui représenteront les couleurs de la Nouvelle-Calédonie aux îles Mariannes du Nord. Vibrez au rythme des jeux et retrouvez les résultats des compétitions sur ctos.nc ou sur Facebook et Instagram, les Cagous NC. Les Cagous sont soutenus par le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'OPT, la BNC, McDonald's et CIPAC.
Tous Cagous! À tous les fans de football! Rendez-vous ce samedi 25 juin sur votre chaîne Pacific Plus dès 15h pour un grand moment sportif. À 15h, la Super Ligue en direct. AS Loci contre Dumbé AFC. À 17h, votre nouveau documentaire signé Canal Plus Calédonie, Kagou Inside. Les coulisses des footballeurs calédoniens au Qatar avec Antoine Comboiré lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et à 17h30, retour de la Super Ligue en direct, AS Wedge contre Tiga Sport. À bientôt sur votre chaîne locale Pacific Plus.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et toujours l'actualité en Calédonie avec d'abord ce mouvement d'humeur de l'USTKE à Carrefour Kenuin. Les manifestants dénoncent ce qu'ils estiment être une forme de discrimination syndicale au sein de l'enseigne. Une réunion de la section USTKE est prévue en fin de journée pour décider des suites à donner à ce mouvement qui ne perturbe pas le fonctionnement du magasin. Deux nouvelles décisions de justice favorables à l'OPT dans le bras de fer qui l'oppose à la SCCI. La Société calédonienne de connectivité internationale a engagé 16 procédures au total pour contester le monopole de l'OPT concernant le deuxième câble sous-marin, Nicolas Legrand.
Et tout d'abord, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 juin dernier et a rejeté le recours de la SCCI. Elle confirme ainsi que l'OPT dispose d'un monopole de droits confiés par la Nouvelle-Calédonie sur l'exploitation des réseaux de télécommunications dont les câbles sous-marins font partie. La Cour reprend donc l'avis rendu par la Cour d'appel de Paris, c'était en octobre 2020. À l'époque, elle avait annulé l'injonction prononcée par l'autorité de la concurrence qui avait demandé à l'OPT de permettre à la SCCI de raccorder son câble. Avant cela, le 17 juin dernier, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la SCCI qui s'opposait à l'attribution de marchés à Alcatel. La Cour reconnaît l'égalité de traitement des candidats et confirme les décisions du tribunal administratif de 2020 et 2021. La Cour qui indique par ailleurs que la SCCI n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de ce marché. 12 procédures ont donc été gagnées par l'OPT face à la SCCI. Un autre recours de la SCCI passera devant le tribunal administratif. Ce sera le 7 juillet prochain.
L'OPT qui fête aujourd'hui le 35e client raccordé à la fibre optique. La cérémonie a eu lieu à Pointe-Boute, à l'école Léonie Avril. 35 000, un cap important de franchi, souligne Johan Lecourieux, le président de l'OPT.
C'est un succès symbolique parce que pour la première fois, on va dépasser la moitié des clients qui sont aussi fibrés. Donc c'est vraiment l'évolution qui a été lancée de la haute technologie et de la haute définition sur l'ensemble de la Calédonie depuis 2016. Et c'était aussi important de le faire en province nord à Pointe-Boute pour dire que l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est concernée. Et ce matin, le 35e client fibré était l'école communale Léonie Avril de Pointe-Boute. 50% des internautes calédoniens maintenant surfent sur Internet avec la fibre optique, ce qui est très bien. C'est le même niveau qu'en métropole et c'est largement au-dessus de nos voisins polynésiens. Et actuellement, on a aujourd'hui avec Pointe-Boute la 12e commune concernée sur l'ensemble du territoire par le développement et l'installation de la fibre. Bientôt, nous aurons aussi Poya, qui sera la prochaine commune concernée.
Ouais, il s'agira plus précisément du secteur de Népouy à Poya. Johan Lecourieux, le président de l'OPT. La signature ce matin de la convention annuelle qui lie la province sud à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, s'est fixée comme objectif de créer et de sauvegarder 600 emplois en province sud en 2022. Isabelle Pelletier.
Cette convention d'objectifs et de moyens signée entre la province sud et l'ADI est assortie d'une subvention de 35 millions auxquels s'ajoutent 6 millions dédiés au dispositif Je deviens entrepreneur et 4 millions pour le programme Talents des cités, soit un soutien à hauteur de 45 millions. La collectivité accompagne l'ADI depuis sa création 1999. Pour le premier vice-président de la province sud, Philippe Blaise, ce soutien au vu des missions de l'ADI se devait d'être sanctuarisé.
C'est important de marquer le coup cette année parce que avec les difficultés budgétaires de la Calédonie, des collectivités, on tenait à insister sur le fait qu'on a maintenu l'aide qu'on donne à l'ADI depuis des années, qui est de 45 millions en total, plus la garantie des prêts avec le fonds de garantie de la province sud. Pourquoi ? Parce que l'ADI joue un rôle d'intérêt public pour aider les publics défavorisés à mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Donc pour nous, la province, c'est important que cet outil soit sanctuarisé, quelles que soient les difficultés aujourd'hui des collectivités. C'est ça qui finalement permet la lutte contre les inégalités, permet l'égalité des chances et de laisser personne sur le bord du chemin.
L'ADI finance les porteurs de projets et les accompagne pour leur premier pas dans l'aventure de l'entrepreneuriat. En un peu plus de 20 ans, plus de 6000 personnes sont devenues des créateurs d'entreprises grâce à l'Association pour le droit à l'initiative économique. Alexandre Rutecki est le directeur régional de l'ADI Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
Deux sujets qui sont tout à fait fondateurs de l'action de l'ADI. Le premier sujet, c'est le financement au travers du microcrédit. Il s'agit de permettre à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire de pouvoir malgré tout accéder au capital et démarrer leur entreprise et donc créer leur propre emploi. Et puis ça ne suffit pas, il y a également un sujet d'accompagnement, un accompagnement avant et après la création d'entreprise, parce que eh bien il faut pas se tromper, une fois qu'on a démarré, il faut pouvoir répondre à toutes ses obligations et l'ADI est là, aussi bien sur le financement que sur l'accompagnement. Chaque année, c'est un peu plus d'un millier d'entreprises qui sont accompagnées et financées par l'ADI partout en Nouvelle-Calédonie. Sur uniquement ce premier semestre en province sud, c'est plus de 250 entreprises qui ont vu le jour. C'est une croissance de 30% par rapport à l'année dernière, qui était certes une année un peu particulière, mais qui avait quand même enregistré un grand nombre de créations d'entreprises.
50% des créateurs d'entreprises de l'ADI aujourd'hui sont des femmes. Selon Alexandre Rutecki, le public tend aussi à se rajeunir. Les publics de l'ADI se trouvent surtout sur terre coutumière et dans les quartiers les moins favorisés du Grand Nouméa.
Les bénévoles, donateurs et bien bénéficiaires de la Banque alimentaire se sont retrouvés autour d'un petit déjeuner ce matin au dock de l'ancienne agence OPT rue Magnien dans le centre-ville de Nouméa. Pour un moment convivial, Jean-Philippe Leroux, le président de l'Association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie et de Dumbéa Handicap, explique que l'aide de la Banque alimentaire permet de distribuer des denrées à 145 personnes dans le besoin.
Oui, on bénéficie de la Banque alimentaire dans les deux associations. Les diabétiques, j'ai à peu près 95 personnes qui sont dans la précarité et une cinquantaine dans Dumbéa Handicap. Ils nous donnent pas mal de denrées. Bon, surtout les diabétiques, c'est surtout tout des trucs diététiques. On a à peu près une palette toutes les deux semaines. Voilà, nos adhérents sont très très heureux et beaucoup de remerciements auprès de la Banque alimentaire et de nos associations justement pour l'aide qu'on leur apporte. Beaucoup de personnes sont dans la précarité et donc il ne faut pas les laisser à la rue, il faut les aider.
Et cette rencontre était aussi l'occasion d'annoncer la signature cette semaine d'une convention de partenariat entre la Banque Alimentaire France et l'antenne de Nouvelle-Calédonie. Les précisions de Bérangère Le Petit, permanente de la Banque Alimentaire en Nouvelle-Calédonie.
Tous les ans, ils vont nous envoyer 50 tonnes de denrées alimentaires, donc ce qui va bien nous aider dans notre activité. Et aussi, on va ouvrir le café de la Banque alimentaire qui se trouvera à la Vallée du Tir. L'objectif, en fait, ce sera de récupérer des aliments qu'on récolte à la Banque alimentaire, de les retransformer et de proposer en fait des repas à bas prix, ou en tout cas les gens qui ont les moyens de pouvoir s'offrir un repas. En payant leur repas, ça en payera un ou deux à quelqu'un qui ne peut pas s'en payer. Pour nous, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Ça fait plusieurs années que le bureau de la banque travaille dessus. Voilà, on a hâte que ça ouvre.
Et la Banque alimentaire lance d'ailleurs à ce sujet un appel aux chefs bénévoles qui veulent bien rejoindre l'association pour préparer ces repas qui seront vendus au café de la Vallée du Tir. Trois jours de fête à Ouvéa qui a lancé ce matin à 9h la fête du Lagon. Elle est organisée dans la tribu de Mouly. De nombreuses animations et activités touristiques seront proposées tout au long du week-end, explique Félix Alozio, le président du comité des fêtes d'Ouvéa.
Pour la fête du Lagon, on a mis en avant surtout l'environnement, en ce qui concerne la forêt de la flore. Il y aura beaucoup d'invités qui seront là, des associations pour nous sensibiliser au niveau de l'environnement, sachant que notre île est la première île à être menacée par le réchauffement climatique, par la montée des eaux, et aussi l'entretien de notre lagon. Ce lagon qui est la richesse de l'île, qui est un peu la vitrine de l'île, au niveau de la vie qui se trouve sous l'eau. Voilà. Et sur place, on peut trouver des petits restaurants, tout à base des produits du lagon. Il y a aussi une transformation de produits, c'est-à-dire au lieu de faire des frites, à la place des frites, on fera des patates, on fera des lèvres de poisson pour transformer un peu nos produits lagonnaires. Des langoustes, du crabe côtier.
Et la fête du Lagon se poursuit donc jusqu'à dimanche à la tribu de Mouly et recevra cet après-midi la visite de la mission sénatoriale. Un mot encore avant de passer à l'actualité en métropole et dans le monde pour vous signaler que les piscines de Magenta et de Rivière-Salée vont fermer à partir de lundi prochain et pour tout le mois de juillet. Il s'agit d'une fermeture annuelle pour maintenance. La piscine du Wentoro restera, elle, ouverte pendant cette période, mais elle sera ensuite fermée du 1er août au 4 septembre inclus. 11h49, on se retrouve dans un instant pour évoquer d'abord l'autorisation accordée par les pays de l'Union qui ont validé l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Tous les jeudis avec TéléNC. On vous propose, vous disposez, toutes les infos, l'actualité, mon horoscope et ma BD.
Mon horoscope, ma BD, mes programmes télé, TéléNC, c'est mon préféré.
Offrez le meilleur à votre voiture dans les stations Total Energy avec Wash et ses programmes de lavage Lotus. Gardez votre véhicule brillant plus longtemps en choisissant l'option Sur Lotus. Et en ce moment, pour un lavage Lotus acheté, un désodorisant Little Joe offert pour parfumer l'intérieur de votre voiture. Trouvez votre centre Wash sur totalenergie.nc.
Socapor s'installe dans le Nord. Retrouvez les univers peinture, carrelage, parquet, sol souple, sanitaire, plaques de plâtre et produits techniques sur Conné, lotissement Cataviti. Plus d'informations au 28 54 91.
Socapor, donnons du sens à votre décor.
Gros arrivage chez Alma Météo Équipement. Mini pelle, mini chargeur, tractopelle ou compacteur. Venez découvrir notre nouvel arrivage JCB en concession. Tous livrés avec le plein de carburant. JCB, c'est la marque fiable et durable pour tous vos engins de chantier. Rendez-vous dans votre showroom JCB chez Alma Météo Équipement. Plus d'infos 41 41 59 ou sur Facebook JCBNC. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
On retrouve Jean-François Bodin et d'abord l'actualité à l'étranger.
Et ça y est, les 27 pays de l'Union européenne ont ouvert la porte à une adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Lors du sommet réuni à Bruxelles, ils ont à l'unanimité entériné cette demande d'adhésion de ces deux pays et posé aussi les jalons pour une décision similaire pour la Géorgie. 4 mois après le début de la guerre en Ukraine, c'est un moment historique, a commenté le président ukrainien Zelensky. À Bruxelles, la correspondance d'Arthur Delaborde pour Europe 1.
Un geste très symbolique décidé ce soir à l'unanimité des 27 et qui était, il faut le rappeler, totalement inimaginable avant la guerre. C'est donc un moment très important aux yeux d'Emmanuel Macron.
C'est une perspective européenne que nous reconnaissons à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions, et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie d'accorder donc ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Tout cela, nous le devions au peuple ukrainien qui se bat pour défendre nos valeurs, leur souveraineté, leur intégrité territoriale.
Pour autant, cette procédure d'adhésion s'annonce longue et devrait prendre plusieurs années. L'Ukraine va devoir réformer son économie et ses systèmes administratifs et judiciaires lorsque la guerre sera terminée. Les 27 insistent d'ailleurs dans leur déclaration sur ce qui touche au respect de l'état de droit et à l'indépendance de la justice. L'intégration européenne passera donc par de nombreux efforts dès que la reconstruction du pays sera possible.
Emmanuel Macron a donc abandonné la politique nationale un moment pour ce sommet de Bruxelles et c'est son Premier ministre qui est à la manœuvre. Elisabeth Borne consulte à son tour et reçoit successivement les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Elle se dit confiante dans le fait de trouver au cas par cas des alliances pour avancer sur certaines réformes et mesures. Et elle veut surtout montrer qu'elle tient le cap dans ce bras de fer entre les députés et le gouvernement. Et les nombreuses déclarations plus ou moins mesurées de l'opposition ne l'impressionnent pas. C'est ce qu'elle a confié sur le plateau du journal de LCI.
Dans le précédent quinquennat, vous savez, quand j'ai porté la réforme de la SNCF, je peux vous assurer qu'il y avait déjà des gens qui étaient assez vocaux, ou la réforme de l'assurance chômage. Voilà, ça a donné lieu à des expressions assez vocales aussi à l'Assemblée. Enfin, moi, vous savez, ça me fait pas peur. Ça a plutôt tendance à me consolider, à me donner du calme quand j'entends des gens hurler autour de moi.
Et pour casser son image de technicienne un peu froide, Elisabeth Borne a évoqué son expérience et son parcours personnel.
On est un pays où on peut être fille d'immigrés, où on peut avoir perdu son père à 11 ans, et le pays vous tend la main pour vous permettre de faire des études. Et vous êtes préfète, puis vous êtes ministre et vous êtes même première ministre.
Selon un sondage Odoxa, 57% des Français souhaitent qu'Elisabeth Borne démissionne. Ils sont 2/3 à se féliciter qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Avec la réponse à notre question d'hier, et 53% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'Emmanuel Macron va parvenir à constituer une majorité pour gouverner. Ils sont 47% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. Au vu de la situation politique nationale, pensez-vous que le dossier calédonien va être relégué au second plan? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Encore un mot d'actualité en métropole avec cette reprise probable de l'épidémie. De Covid. Ces dernières 24 heures, 78 000 tests positifs ont été recensés et les hospitalisations sont en hausse. Le variant BA5 est sans doute très contagieux mais provoque peu de cas graves de la maladie. Dans tous les cas, pas question de prendre de nouvelles mesures contraignantes, a expliqué la toujours ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon.
Les mesures actuelles suffisent, mais nous surveillons évidemment chaque jour cette situation pour reprendre d'autres mesures s'il fallait et s'il en était besoin. Si vous sentez quand même qu'il y a promiscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. Donc voilà ce que je recommande aujourd'hui.
Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé. La dernière pause de ce journal à 11h55. Ensuite, c'est le sport au menu des mini-jeux, la Groupama Race, de la natation et du rugby.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'est l'anniversaire de Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage Conné organise une nocturne ce vendredi de 17h à 19h. 20% de remise sur tous les rayons. Offre valable hors promotion anniversaire et prix net.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Va donc chez Speedy.
C'est rigolo quand j'entends cette petite chanson. Je pense frein, je pense frein, je pense moins 25%. Je ne sais pas pourquoi.
Va donc chez Speedy.
Jusqu'au 17 juillet, chez Speedy, moins 25% sur les disques et plaquettes de frein Bendix hors pause. Offre valable dans les centres Speedy participants.
Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Retrouvez aujourd'hui, avec les nouvelles calédoniennes, votre magazine télé préféré, Coco TV.
Actu film, séries, streaming, recettes, jeux et bien sûr, tout le programme télé de la semaine au grand complet.
Alors n'oubliez pas, Coco TV, c'est aujourd'hui avec les nouvelles calédoniennes.
Ceci était un message de votre magazine Coco TV.
Coco TV, l'actualité de tous les écrans.
Vous organisez un événement? Vous le voulez original? Inoubliable? Le Ponton vous offre la possibilité de privatiser. Formule groupe et activité nautique, demandez votre devis sur leponton.nc.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et on va tout de suite rejoindre Lionel Sabot à Saipan.
Les mini-jeux du Pacifique de Saipan avec McDonald's Nouvelle-Calédonie, partenaire officiel des Cagous.
Bonjour Lionel.
Et bonjour Jean-François.
Ça avance hein, ces mini-jeux, on est bientôt à la fin déjà, ça passe très vite. Alors la question du jour évidemment c'est toujours la même hein, dans ce journal de la mi-journée. Y a-t-il eu ce matin des médailles calédoniennes?
Bah non Jean-François, je suis désolé, il n'y a pas de médaille supplémentaire pour vous ce midi. Il faut dire que avec le décalage horaire, il n'est que 11h ici à Saipan et que les compétitions ont lieu il y a à peine une petite heure. On va suivre de très très près aujourd'hui le golf, puisque c'est la dernière journée de compétition et qu'il y a du suspense à tous les étages. Alors chez les dames, on va commencer avec les dames. Leur par équipe ne devrait pas échapper aux calédoniennes. Ce soir, elles avaient tout à l'heure 28 coups d'avance sur la formation de Guam. En individuel, Inès Lavelou a tout fêlé et pour le moment, podium. Elle est deuxième, mais à un coup seulement de la leader du classement général, donc tout va pouvoir changer. Chez les messieurs, encore plus de suspense, dans la compétition par équipe, les Calédoniens sont à égalité parfaite avec Guam pour la médaille d'or. Et puis en individuel, Hugo Koch est en tête de la compétition avec deux coups d'avance sur trois joueurs, dont Guillaume Castagnier et quatre coups d'avance sur Jules Guépy. Tout reste donc ouvert. Il y a du suspense, je vous le disais, à tous les étages, mais les Calédoniens pourraient faire cet après-midi le grand chelem avec trois médailles en individuel et la médaille d'or par équipe. On aura le résultat, bien évidemment, pour le journal de 17h45. Il y a du badminton également aujourd'hui avec la suite des tournois en individuel, en double et en double mixte. On est au stade des quarts de finale ce matin. Duva également au programme avec les dernières courses de ces mini-jeux. Le marathon en V6 sur 24 km. Les pirogues sont actuellement sur le plan d'eau. Et puis de l'athlétisme ce soir avec la dernière soirée au stade Oleai avec encore des chances de médailles pour nos cagous. Je rappelle qu'hier soir, les Calédoniens ont remporté 5 médailles en athlée dont 2 en or. Alors vous l'avez compris, à 24 heures maintenant de la cérémonie de clôture, il y a les athlètes qui sont encore en compétition, puis il y a ceux qui ont changé de sport et qui sont devenus supporters. C'est le cas du côté calédonien de la sélection de triathlon. Nos triathlètes qui sont rentrés hier de l'île de Rota, retour bien évidemment avec des médailles plein les valises, des médailles qui n'ont pas toutes la même saveur pour Mathieu Salamacha que j'ai croisé hier soir à l'athlétisme. Écoutez.
C'est clairement celle par équipe parce que c'est là où on se donne à fond. Alors sur la Coathlon, c'est un peu particulier parce que c'est les deux épreuves individuelles qui ont servi pour le classement en équipe. Mais clairement, le triathlon relais, ça nous a laissé des souvenirs à vie, je pense. Et le fait de se taper dans la main et d'abord voilà une fille, puis un garçon, puis re une fille et re un garçon. Pardon, c'est l'inverse. Mais bref, voilà, c'est hyper, c'est très excitant à faire et on se donne à fond quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était chouette.
Voilà Mathieu Zalamacha qui n'en a pas tout à fait terminé d'ailleurs avec ses mini-jeux puisqu'après le triathlon, il sera engagé demain sur le semi-marathon en athlétisme. Voilà Jean-François pour ce point à la mi-journée. On attend, vous l'avez compris, d'autres médailles pour ce soir. On fera un nouveau point dans le journal de 17h45. Bel après-midi.
Bel après-midi à vous Lionel. On vous retrouve évidemment pour ce sprint final des jeux des mini-jeux du Pacifique à Saipan.
C'était la page des mini-jeux du Pacifique de Saipan avec McDonald's Nouvelle-Calédonie, partenaire officiel des Cagous.
Ça sent la fin aussi sur la Groupama Race.
Avec le Cercle Nautique Calédonien et Groupama Pacifique, naviguez sous spi dans les pages spéciales Groupama Race 2022 sur Radio Rythme Bleu.
Et le premier équipage calédonien qui a coupé la ligne hier soir, c'est High Candy, Frédéric Jancheret.
En l'espace de 3 heures, 6 équipages sont rentrés à bon port, dont 5 calédoniens. Et le premier d'entre eux est donc High Candy, barré par Thierry Le Seigneur, qui a achevé sa régate hier soir à 18h42, après 4 jours, 8h37 minutes 13 secondes de course. Le voilier a coiffé au poteau Kalolo, qui a longtemps occupé la 4e place en temps réel, derrière la flotte australienne et néo-zélandaise. Une arrivée sous les vivats du public. La réaction de Thierry Le Seigneur.
D'abord, la place nous ravit complètement. Comme nous sommes trois bateaux totalement identiques, c'était un challenge de finir devant les deux autres. Satisfaction vis-à-vis de l'équipage qui a bien fonctionné, de la météo qui était celle qu'on voulait. Et puis, c'est la chance. Au bon moment, la bonne chance. On a un joint d'étanchéité entre le safran et l'intérieur du bateau qui a lâché. Et on a eu plus de 30 litres par heure qu'il a fallu éponger. Bon, on a réussi à trouver une solution et on a fait les shaddocks pendant deux jours.
High Candy qui peut remporter cette édition en temps compensé également. Ça jouera avec BCI Brer Fox et Axions Untouchable qui est attendu dans l'après-midi. Kalolo a donc terminé cinquième en temps réel à 19 minutes d'High Candy. Pour le skipper Judica Lilion, son multicoque pouvait difficilement rivaliser dans le final avec le monocoque de son rival au vu des conditions de fin de course.
Dur et intense, très belle course et une arrivée magnifique avec on est arrivé à la passe, on était loin devant et arrivé à l'hylomètre, le vent il est tombé. High Candy est un voilier de régate, donc très performant. Et puis bon, Thierry Le Seigneur, c'est un très bon navigateur dans la pétole. Kalolo est un bateau qui va beaucoup moins marcher que le monocoque. Très content de cette course et puis dans deux ans on sera là.
Judica Lilion au micro de Kalinda Boicou. Notez que le top 10 est complété de Guilty Pleasure qui a pris la 6e place devant Pulpito, Wings, Motorboat 2 et Clockwork. Et l'équipage 100% féminin Dove Défi des filles, soutenu par RRB, est à l'approche. Céline Kaltenmark.
Ça se passe super bien, on est super contents de notre course. On a hâte d'arriver quand même. On a eu quelques problèmes avec notre grand voile, donc ça nous a un peu freiné pendant un jour et demi. Mais ça a réparé et on a pu continuer, on est super contents. Là, on est entre la fatigue et l'excitation de l'arrivée. Les conditions sont plutôt bonnes, la mer est belle, le vent plutôt constant, faut rien lâcher. On a la fatigue qui arrive, l'excitation, on se concentre sur les réglages, on veut de la performance tout le long. Et là, on est tous sur le pont, évidemment, plus personne ne peut dormir. Je crois qu'on sera bien attendu et on sera vraiment contents de revoir tous nos proches, ceux qu'on aime et tous ceux qui nous ont soutenus toute l'aventure.
Dove Défi des filles prévoit une arrivée à Port-Moselle autour de 15h, un équipage qui occupe actuellement la 15e place provisoire en temps réel. Les arrivées groupées se poursuivent. Blue est arrivé tout à l'heure à 10h45, suivi de Bessie Brer Fox à 11h09 et de Tosso Climatisation à 11h46.
C'était la page spéciale New Caledonia Groupama Race avec le concours notamment de la BCI, Air Canin, l'OPT et Sérical. New Caledonia Groupama Race, une course au paradis tactique et endurante.
On passe à la notation avec un autre Canadien qui s'illustre, Maxime Grousset, qualifié pour la finale mondiale du 50 mètres nage libre à Budapest.
Le Calédonien tout frais vice-champion du monde du 100 mètres nage libre est passé après un barrage. Il avait signé le 8e temps des demi-finales à égalité parfaite avec le Brésilien Bruno Fratus en 21 seconde 83 centièmes. Ils ont donc dû se départager lors d'un barrage que Maxime Grousset a remporté en 21 secondes 59, un temps canon qui correspond pour info à la deuxième meilleure marque des demi. Sur le papier, il a donc les bras et les jambes pour décrocher un nouveau podium. Il disputera cette finale demain matin à 3h09 pour nous. Quant à Florent Manaudou, il a été éliminé en demi avec le 11e temps, 21 secondes 95. Le quadruple champion du monde l'a avoué à l'arrivée, il a moins travaillé ces derniers temps et la logique a été respectée. Il n'était pas au niveau, mais il avait également annoncé la couleur. C'est pour lui une année de transition. Et notre Calédonien Emma Terebo a été éliminé pour sa part en demi-finale du 200 mètres d'eau. Cinquième de la finale du 100 mètres d'eau. Elle a fini cette fois 12e des demi avec un chrono de 2 minutes 11 secondes 77 centièmes.
Et puis demain matin, c'est la grande finale de Top 14 en rugby. Un remake de celle de 2008 entre Castres, de 2018, pardon, entre Castres et Montpellier. Coup d'envoi 5h45. Un choc entre les deux premiers de la saison régulière. Deux équipes aux jeux rarement enlevés, mais souvent efficaces. La preuve, ils ont sorti les favoris Toulouse et Bordeaux-Bègles en demi-finale. Écoutez l'entraîneur montpelliérain Philippe Saint-André.
On est ensemble, on est dans notre bulle depuis hier soir. Il y a beaucoup de bonne humeur dans le groupe, beaucoup de sourires. Automatiquement, les visages vont commencer à se refermer demain. Pour moi, ce qui est important surtout, c'est de pas faire le match avant de l'avoir joué, pas bouffer de l'énergie avant. Au bout d'une saison aussi longue, ça se fait sur le mental, le physique et sur la précision qu'on va mettre demain dans notre stratégie.
Une finale que prépare évidemment Castres aussi, comme l'explique l'un de ses entraîneurs, David Daricarère.
Un match lourd d'intensité, ça c'est évident, avec énormément d'engagement, d'âpreté, je pense, dans le combat aussi. Mais un match qui peut aussi être très vite débridé suivant l'effet de jeu, suivant le score et suivant les intentions des équipes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un match de haute intensité, notamment dans les courses, dans les duels aériens, dans les duels tout court. Je pense qu'il y aura une sacrée intensité sur ce match-là.
Et si Castres a déjà remporté 5 fois le championnat de France pour Montpellier, ce sera l'occasion de décrocher, pourquoi pas, son premier bouclier de Brennus. Midi 6, un journal un peu plus long ce vendredi avec une actualité sportive assez chargée, notamment...